Aujourd'hui, comme il y a un demi-siècle, l'Europe se trouve en face de la Révolution française. Tous les gouvernements ont affaire à un ennemi commun et sont exposés à voir cet ennemi remporter bien des victoires. Prince de Metternich, chancelier d'Autriche, le 29 février 1848.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le congrès de Vienne de 1815 avait pris des dispositions politiques extrêmement importantes pour réorganiser l'Europe après la chute de Napoléon. Le gardien de cet ordre était en particulier le prince chancelier d'Autriche, Clément von Metternich. Le principe était simple. Il fallait qu'après la tempête révolutionnaire, qui avait vu croître le sentiment national et qui, aux yeux des princes de l'Europe, avait provoqué la cascade de guerre qui avait traversé les années 1792-1815, il fallait donc rétablir un ordre politique qui soit basé sur les grandes dynasties et sur le principe de la légitimité monarchique. Ainsi, c'est bien cet ordre qui avait été décidé à Vienne. Cet ordre, jusqu'en 1848, n'a été que assez peu bouleversé. Il y a eu l'indépendance de la Belgique en 1830, l'indépendance de la Grèce en 1831, des soulèvements en Espagne, en Italie, mais finalement, l'ordre de Vienne s'est maintenu jusqu'en 1848. Or, cette année-là, l'ordre de Vienne va connaître un tremblement de terre extrêmement important. La monarchie de Louis-Philippe, la monarchie de Juillet, est renversée à Paris entre le 23 et le 25 février 1848. Comme une onde de choc, l'Europe va dès lors connaître une série de mouvements révolutionnaires qui vont toucher une très grande partie du continent. En premier lieu, l'Empire d'Autriche lui-même. Au début mars, des manifestations ont lieu dans la capitale de l'Empire. Les manifestants réclament une constitution, le respect des grandes libertés et le départ du vieux prince Metternich. En fait, il est obligé de quitter la ville le 13 mars, sans doute d'ailleurs, semble-t-il, caché dans une berline. Mais à partir de Vienne, les révoltes vont toucher l'ensemble de l'Empire. Prague va connaître des manifestations, réclamant, là encore, plus d'autonomie vis-à-vis de la couronne d'Autriche. La Hongrie se soulève, ou les plus ultras d'ailleurs, réclament une indépendance vis-à-vis de l'Autriche. Autre lieu d'Europe touché par les révolutions, c'est l'Allemagne. L'Allemagne avait été certes simplifiée par le congrès de Vienne. Au lieu des 450 États du Saint-Empire, il n'en restait plus que 39 réunis dans la Confédération germanique, sous la présidence de l'empereur d'Autriche. Or, les grands États allemands connaissent des manifestations tout au long du mois de mars 1848. Et en particulier à Berlin, où le roi Frédéric Guillaume IV est obligé de céder face aux manifestants et à accorder une constitution libérale. Il fera d'ailleurs un geste extrêmement théâtral en venant s'incliner devant les 250 dépouilles qu'avait fait la répression des manifestations. Autre lieu d'Europe extrêmement touché par le phénomène révolutionnaire, c'est l'Italie. La garnison autrichienne qui occupait Milan depuis 1815 avait été obligée de se retirer. De même, les Autrichiens avaient perdu le contrôle de Venise. Qui plus est, le royaume de Piémont-Sardaigne, sentant l'occasion peut-être rêvée de parvenir à unifier l'Italie sous la dynastie des Savoies, avait lancé une guerre de libération nationale contre les Autrichiens. Puis, les Bourbons de Naples, le pape Pie IX lui-même à Rome, le grand-duché de Toscane avaient connu des phénomènes révolutionnaires qui avaient progressivement renforcé l'ensemble des mouvements de la Révolution et fait céder les princes en place. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'on a entendu en Italie ce qu'allait devenir en 1946 l'hymne de l'État italien Fratelli d'Italia. Pourtant, ces divers mouvements révolutionnaires, à qui on a donné le nom de printemps des peuples, finissent par échouer. Pourquoi ? Les causes sont bien sûr multiples. Premier élément à prendre en compte, c'est que les révolutionnaires sont extrêmement divisés. Il y a finalement des révolutionnaires les plus modérés, qui souhaitaient obtenir des pouvoirs en place, des constitutions libérales, mais qui ne souhaitaient pas forcément renverser les monarchies en place. D'autre part, inversement, il y avait des révolutionnaires beaucoup plus ultra, qui souhaitaient par exemple l'instauration d'une république en Italie, comme Mazzini, et donc qui provoquaient entre les deux factions des divisions très nettes. Deuxième explication de l'échec, c'est la question nationale. Si l'on prend le cas allemand, la question est de savoir vers quelle unité allemande on doit aboutir. Est-ce que c'est une unité de la grande Allemagne avec l'Autriche, ou est-ce que c'est l'unité de la petite Allemagne qui exclurait l'Autriche, et donc ses populations germaniques, d'une unité allemande. Le Parlement de Francfort, qui s'est réuni en 1848-49, n'a pas su véritablement trancher cette question, et finalement il a opté pour une constitution d'un État impérial allemand qui serait confié au roi de Prusse, mais donc sans l'Autriche. Le problème, c'est que quand on a proposé à Frédéric Guillaume de Prusse de devenir empereur, celui-ci a refusé parce qu'il ne voulait pas une couronne issue des barricades. Et quand, en 1850, ayant sans doute réfléchi à la formidable opportunité politique, il a accepté, c'était trop tard, parce que l'Autriche lui fit savoir qu'il n'était pas question d'accepter une unité de l'Allemagne. En Autriche aussi, la question nationale s'est posée. La Hongrie voulait vraiment se détacher de l'Autriche, ou en tout cas une partie de sa société. Mais elle était là également divisée, parce qu'une partie des Hongrois ne souhaitait pas aller aussi loin et souhaitait plutôt un accord d'accommodement avec le gouvernement de Vienne. L'autre explication qui explique l'échec du printemps des peuples, c'est l'intervention des grandes puissances. Qui finalement est en train de réduire en 1849 la révolte hongroise ? C'est la Russie. Les troupes du tsar Nicolas Ier interviennent en Hongrie et vont écraser les révolutionnaires hongrois. De même, les Français, la République française, intervient à Rome en 1849 et rétablit l'autorité du pape Pie IX. En Italie du Nord, c'est l'Autriche elle-même qui réussit en 1849 à reprendre pied en Lombardie, réoccupant Milan, réoccupant Venise au mois d'août 1849 et provoquant la défaite des Piémontais et l'abdication du roi de Piémont-Sardaigne, Charles Albert. Donc l'intervention des grandes puissances a été indéniablement extrêmement importante. Néanmoins, est-ce que, s'il est vrai que ce printemps des peuples est un échec dans un premier temps, est-ce à dire qu'il n'a pas porté quand même des conséquences sur l'histoire de l'Europe après 1850. Il est vrai que quand on regarde la situation au milieu du siècle, on a le sentiment d'un retour plus ou moins fort, plus ou moins rude à l'ordre de Vienne. Et pourtant, rien n'est tout à fait comme avant. D'abord parce qu'une partie de la société européenne a pris goût à la liberté constitutionnelle, a pris goût à l'intervention de la société dans le domaine public, et donc refuse un simple retour à un pouvoir strictement autoritaire. D'autre part, certains États ont gardé des constitutions. C'est le cas en particulier du Piémont-Sardaigne, qui va être en Italie l'espoir des libéraux qui espèrent en l'unité. Autre élément qui va, je crois, compter dans la réflexion sur la question du printemps des peuples, c'est que le spontanéisme révolutionnaire a montré ses limites. Certains ont pu croire qu'en 1848, la révolution allait se faire d'elle-même et aboutir à des résultats sans véritablement préparation. On s'est aperçu que cela n'était pas possible. Aussi, Camillo Cavour, futur président du Conseil du roi de Piémont-Sardaigne, Otto von Bismarck, futur président du Conseil du roi de Prusse, vont retenir ces leçons Pour préparer l'unité de l'Italie et de l'Allemagne, il faudra planifier une action et ne pas seulement compter que sur le spontanéisme révolutionnaire.